écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, des garçons aux yeux verts. Mise en scène, production Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. Guillaume est extrêmement triste, ne fait pas attention à ce qu'achète sa mère. Sortent du magasin, plein de paquets, remplis de livres. Elle lui dit, il va falloir s'y aller à la part Dieu pour acheter les accessoires. Et ils vont à la part Dieu. Ils sont allés à la part Dieu. Le centre commercial, lui aussi, est plein de SDF. La plupart des magasins sont fermés. C'est sale, ça crie, ça rit. Ils sont allés à Carrefour acheter des cahiers, chaussures, etc. Ils ont rempli un caddie. Comme elle n'a qu'un fils, elle n'a pas eu le droit à un chèque de réduction. On donne de l'argent pour les gens, pour que les gens puissent avoir des gosses, pour surpeupler la planète et la polluer. La plupart du temps, ceux qui surpeuplent n'ont pas les moyens de faire vivre ceux qu'ils ont pondus. Mais la société encourage les pondeuses à pondre le plus de peau possible. Ensuite, elle lui a montré où était son collège. C'est un collège privé qui se trouve sur les pentes de la Croix-Rousse, collège lycée Saint-Bruno. Tu vois, c'est ici. Il voit une grande façade grise, triste, la rue est étroite, sans verdure, elle est en pente, il y a plein de voitures garées. Elle lui explique comment il doit faire pour aller jusqu'ici. Il doit prendre le car jusqu'à l'opéra, puis le métro, tu t'arrêteras place de la Croix-Rousse. Après la navette, jusqu'ici. La navette va t'arrêter juste devant l'entrée de ton collège. Tu vois, c'est simple et direct. Il se dit, c'est ce qu'elle pense. Mais il est effrayé par tout ça. Faire ce trajet dans une ville pareille, il aura le temps de se faire tuer au moins 100 fois. Puis sont entrés. La mère tout excitée, aux anges, toutes ces choses, elle les met dans la chambre de Guillaume. Comme ça, tu pourras les regarder comme tu voudras. Feuilleter les livres. Les livres d'algèbre a l'air bien. Rien que ce mot lui fait vomir, Guillaume. Déjà en maths, il est nul, il a des difficultés à comprendre. Alors avec ce truc-là, il sait qu'il passe ses derniers jours de vacances, qu'il les passe dans un pays gris, triste et violent. Pour lui, c'est la fin du monde. et le monde où il est, c'est la fin du monde. N'ose plus regarder le calendrier, car l'appétit n'a goût à rien. Marche mélancoliquement dans le jardin, un petit jardin tout triste, sans couleur. Maman a bien dit qu'elle y mettrait des fleurs, mais le temps qu'elles poussent et fleurissent, je reste assis des heures, ton chat sur ses genoux. N'a pas envie de lire. Parce qu'il sait que s'il lit, le temps va passer plus vite. Sa mère semble heureuse. Elle lui dit « Ouf, plus de trajet pour rentrer à la maison. » Son père aussi. Il n'y a que lui qui ne le soit pas. Tout le monde fait semblant de ne pas le voir, parce qu'on ne sait pas trop quoi lui dire, et puis on ne peut pas lui permettre ce qu'il souhaite. Il faut qu'il s'habitue de lui-même à cette vie, et puis c'est un grand garçon, il faut qu'il s'adapte à une vie de grand garçon. Il faut qu'il apprenne à se faire une place dans la société, à lutter. C'est ce que pense papa. Il dit à sa femme dans leur chambre, c'est une bonne chose qu'il soit ici. Ça va lui apprendre ce que c'est que la vie. Là-bas, il était en dehors de tout, comme dans du coton. Ici, il va voir, il va se cogner à la vie, deviendra un homme. S'il est resté là-bas, on n'aurait rien fait de lui. La femme lui dit, peut-être, mais je trouve l'environnement dur. Il y a trop de différence entre ce qu'il a connu et ce monde-ci. Le mari lui dit, plus la chose est franche, mieux c'est. Tu vas voir. Il va vite se mettre au pli. Il va changer. Il va demander un téléphone portable, un MP3, des fringues. Il va draguer les filles. Maman est effrayée. Tu vas trop vite. On ne va jamais assez vite dans la vie. Elle lui dit, j'ai peur qu'il ne prenne de mauvaises habitudes. Il lui dit, faut bien que jeunesse se fasse. Elle lui dit, il y a de la drogue qui circule dans tous les établissements. Il lui dit, un joint, par-ci, par-là. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Tu crois? Oui. Elle lui demande, je ne savais pas que tu en avais pris, toi. Il lui dit, moi non. C'était pas la mode. Mais maintenant, la chose est devenue courante. Le temps change. Faut être dans le vent. Elle lui dit, un vent qui va dans le mauvais sens. Il lui dit, pour la jeunesse, il a toujours été dans le mauvais sens. Enfin, c'est ce qu'on a toujours cru. C'est ce qu'ont toujours cru les parents. Mais, surtout, les parents. Souviens-toi, lorsque tu étais jeune. Elle lui dit, j'étais bien sage, je ne savais pas grand-chose de la vie. D'ailleurs, lorsque tu m'as connu, tu étais bien heureux de m'avoir, d'avoir une oie blanche. Il l'embrasse sur la joue et lui dit, oui, c'est vrai. Thank you. Et alors, la date est là, c'est la rentrée. Les journaux, la radio, la télévision ne vont parler que de ça. De la même façon que si la France était envahie par un ennemi quelconque. Il est vrai que pour une société, une horde de jeunes, c'est un peu comme une horde de barbares qui rentrait à Rome. Guillaume sait que demain c'est la rentrée. Il est effrayé, effondré. Adieu, il sera plus libre. Sa mère a tout préparé, le linge propre, le cartable, l'argent et un dépliant pour aller jusqu'au qui explique comment on fait pour aller jusqu'au collège avec marqué dessus en rouge ce qu'il doit prendre pour aller là-bas. Il est triste. Se couche tôt parce qu'il a peur d'arriver en retard et il a peur de se perdre aussi pour y aller. Dans son lit, il n'arrive pas à s'endormir. Il fait chaud, lourd. C'est une chaleur poisseuse. Là-bas, au pays bleu et vert, à cette époque, il faisait déjà frais la nuit. Mais là, il n'a pas sommeil. La gorge serrée, la peur du lendemain. Le temps passe. Il n'entendait pas. Parler. Le temps passe. Il entend que l'on monte les escaliers. Pour se coucher. Puis le silence. Regarde le réveil. Déjà 18h30. Il aimerait qu'il n'y ait pas de demain. Non, surtout pas. Pauvre Guillaume. Il a chaud, très chaud. Que va-t-il faire demain? Il dort un peu par intermittence. Enfin, il se réveille. C'est presque le jour. Voit le réveil. Il a une demi-heure d'avance. Décide de se lever tout de suite. Il se lève, la langue pâteuse. Va à la salle de bain, prendre sa douche. Puis s'habille. Prends dans sa chambre son cartable. Et descend à la cuisine. Marie est déjà là, et surprise de le voir. T'es déjà levé ? Oui. Elle lui dit, il est bientôt. Il lui dit, je sais, mais j'ai peur de me tromper pour le quart. Elle lui dit, c'est vrai. Ben, je vais te préparer ton petit déjeuner. Va au salon. Il y va. Le jour se lève. La pièce est encore sombre. S'assoit sur une chaise, à table et attend. La porte s'ouvre. C'est sa mère en robe de chambre, beige, en soie, et lui dit, j'ai entendu te lever. Tu n'avais plus sommeil ? Faut pas te lever si tôt. Il lui dit, je sais pas. Elle l'embrasse. Tu es crispé, mais tu vas voir, ça se passera très bien. C'est une très bonne école. Marie arrive avec le petit déjeuner. Les pose sur la table et fait le service. Tiens, mon petit, merci. Puis se retire. Guillaume a la gorge serrée, n'a pas très faim. Sa mère lui dit, vous mangez, la matinée va être longue. Alors il se force à croquer une tartine de confiture de myrtille. Ça lui rappelle le pays bleu et vert. Ah, la rentrée là-bas. Elle lui demande. Tu n'en veux pas une autre ? Non, merci. Ça va ? Oui. Il se lève et lui dit. Déjà ? Oui. J'ai peur pour le quart. Elle lui dit. Te fais pas de soucis, va. Ça va aller. Elle leur accompagne. Jusqu'à la sortie de la propriété. Il fait jour. Un jour gris, triste. Pauvre Guillaume. Avant d'ouvrir le portail, sa mère lui dit, je ne peux pas t'amener là-bas, parce que c'est l'autre côté où je travaille. Je ferais traverser toute la ville, et à 16 heures, il y a beaucoup de circulation. Je risquerais d'être en retard pour mon travail. Tu as bien compris pour y aller ? Il lui dit, oui. Elle lui dit, tu prends le car qui est là, au bout de la rue, et tu vas jusqu'au métro, qui est vers l'opéra. Tu t'arrêtes à l'opéra. Après, tu prends le métro Croix-Rouge. Ne prends pas celui qui va à Perrache ou à la Part-Dieu, hein. Fais bien attention. Oui. Surtout, ne parle à personne. On ne sait jamais. Oui. Elle l'embrasse. un jour gris, triste, triste, pauvre Guillaume. Voilà, il est dehors. Il va jusqu'à l'arrêt du car. Il n'y a personne qui est à l'arrêt. Un peu inquiet. Est-ce bien ce car? Est-ce bien dans la bonne direction qu'il va prendre? N'a-t-il déjà pas passé? Il est très inquiet. Il attend un moment. Bien sûr, il est en avance. Enfin, il voit le car arriver dans la rue. Est-ce bien celui-là? Oui, ça semble être le bon numéro. Regarde sur le dépliant. Oui, c'est celui-là.
Au revoir, François.
Merci. Le car s'est arrêté. Dans le car. Tout de même, il demande au chauffeur, un gros monsieur à cheveux gris, « Monsieur, est-ce que vous vous arrêtez à l'opéra ?»« Bon, mon grand, tu as ta carte ?»«
Non. » »«
Là non plus, il n'a pas de réduction. Il est fils unique. » Le chauffeur lui dit, « Alors, il faut payer. » Guillaume donne une pièce de son porte-monnaie. Le chauffeur lui dit, il manque 50 centimes. Il le lui donne. Le chauffeur lui donne un ticket. Composte-le. Et Guillaume y va. Voit un appareil pour composter. Voilà. Le car va se mettre en route. Il y a des difficultés à rester en équilibre. Et à composter. Enfin, il y est arrivé. Il y a peu de monde dans le car. Quelques jeunes qui rigolent et des gens tristes qui doivent sûrement aller travailler. Ils vont travailler pour gagner moins que ceux qui ne travaillent pas. Enfin, c'est la vie. Guillaume se met au milieu du car pour bien voir la sortie et regarder le panneau où il y a les mots, les noms des arrêts. Il voit où se trouve l'arrêt opéra et celui qui est avant. Le trajet lui semble long. À chaque arrêt, Guillaume regarde inquiet où il est arrivé. Les gens continuent à monter. Le car se remplit. Guillaume se sent perdu au milieu de tous ces gens. C'est la première fois qu'il prend le car. Il ne peut pas regarder les gens. Alors il regarde ses pieds ou les arrêts des cars. Il y a de plus en plus de monde qui prennent le car. Il fait chaud, de plus en plus chaud. Guillaume a peur de ne pouvoir sortir du car parce qu'il y a plein de gens qui sont près de la sortie. Il sent que ça va être difficile pour sortir, il a peur. Son cartable ne l'aide pas à se déplacer. Il voit avec soulagement et peur que c'est bientôt son arrêt, qu'il doit descendre. Il arrive à se faufiler avec son sac et a peur de rater la sortie. Il se sent gêné. Les gens le regardent d'une drôle de façon. C'est pourquoi, mais la peur des filles de son âge. Enfin, le car s'est arrêté. Il sort, apeuré, transpirant, étourdi. Pas sorti de car, ne sait plus où il est. Il a la tête qui tourne. Le car est parti. Lui reste sur le trottoir. Regarde où il est. Le quai en face, l'opéra de son côté, la place du Padel. Regarde son dépliant. Maintenant, il doit prendre le métro. Cherche où est l'entrée du métro. Non, il n'est pas à côté du car. Où est-il? Il panique. Cherche un peu sans oser trop s'éloigner de l'arrêt du car parce que c'est son point de repère. Une vieille dame peau forte, habillée d'une robe grise, va à lui et lui dit « Pardon madame,
oui,
est-ce que vous savez où est le métro ?»«
Lequel ?»«
Celui qui va à la Croix-Rousse. »
Tu vas à droite, là, monte la rue, et à droite, il y a un jardin. Dans le jardin, il y a le métro. C'est pas difficile, tu verras.
Merci. Et il y va. Monte une rue lugubre, trouve le jardin et trouve l'entrée de la station de métro. Il arrive à trouver où il faut entrer. Voit des gens qu'on peut céder des billets. Il n'en a pas. Regarde s'il n'y a pas de vendeur de billets. Non, parce que l'on fait tout pour que les gens ne puissent pas s'acheter de billets. Pas de vendeur, pas de bonnet, et il faut savoir se servir de cette chose pour acheter le billet, etc. Plus c'est compliqué, mieux c'est. Et comme ça, si une personne est pressée, eh bien, tant pis pour elle. Ou elle rate son rendez-vous, ou elle paye une amende. Donc, le pauvre Guillaume ne sait pas comment faire pour se procurer un billet. Il voit un homme grand, maigre, à lunettes, chauve. Il lui demande, « Pardon, monsieur ?»«
Oui, qu'est-ce que c'est ? Au voleur ! Au voleur ! Hi, j'ai rien volé ! Va-t'en, va-t'en, va-t'en !»«
Mais non ! C'est pour savoir comment on fait pour avoir un billet. »
L'autre ses épaules lui dit, « Comme si tu ne le savais pas. Tu me prends pour un imbécile. »
« Non, je vous assure. »
Et l'homme lui montre l'appareil. Guillaume y va. Le temps qu'il comprenne ce qu'il faut faire, qu'il trouve la monnaie, il faut qu'il... un billet, un ticket, le compost. Il est déjà parti de métro. Il y a du monde à l'arrêt. Surtout des jeunes qui crient, qui rient, qui braillent. Ils sont contents de se retrouver. Fini les vacances avec les vieux. Quelle corvée! Bien sûr, ils s'inventent pour leurs copains des vacances de rêve. Où ils ont baisé comme des fous, fait des tas de trucs, comme aller à des rave parties, sortir avec des potes. Ils ont acheté des tas de CD d'Angleterre, Belgique et même d'Espagne. Pas cher et ultra choc, etc., etc. Les filles montrent leur nombril pour prouver qu'elles ont été bronzées sur la côte et parler de leurs petits amis. Il était chou, etc., etc. Ce n'est plus une entrée scolaire. D'ailleurs, vont-ils à l'école pour étudier ou pour draguer et se montrer? Téléphone portable, marche à fond, etc. Le métro arrive. Pour pas se tromper, il demande à une fille. Est-ce bien celui-là qui va à la Croix-Rousse? Elle lui dit. T'es bien bête, toi. Tu vois bien qui monte? Alors il le prend. Le trajet est très court. Sorti du métro, il regarde. Place de la Croix-Rousse, il cherche la navette pour aller à l'école. Voit sur le panneau 61, la Soyeuse. Navette. Il demande à une vieille petite femme, cheveux noirs et à la jambe d'arc, l'air revêche et lui demande, c'est bien celui-là qui va au Chartreux? Elle le regarde bien et lui dit, tu me prends pour une imbécile! Tu ne sais pas qui je suis. Je suis Madame Terrier, du 57. Je connais le chauffeur du 61, qui d'ailleurs est toujours en retard, celui-là. Le préfet et le président des HLM du Rhône. Et toi, tu ne connais pas? Pff, espèce d'idiot! Va! Le car arrive. Il entre. Il faut qu'il prenne encore un ticket. Et regardez où il s'est arrêté. Demande au chauffeur. Où faut s'arrêter pour l'école Saint-Bruno, je crois, lui dit. À côté du casino, juste au début de la rue. Il y a du monde dans le car. Guillaume reste près de la sortie. Le trajet est très court. Devant l'arrêt, il y a des jeunes. Il se trouve tout de même une petite place. Cherche ce Saint-Bruno. Enfin, le car s'arrête. Descend du car. Oui, le trajet était vraiment très court. Il y a beaucoup de jeunes qui descendent avec lui. Il se trouve devant une petite place. Cherche le Saint-Bruno. Il voit des jeunes aller par bande. Il les suit et se trouve devant la porte qui n'est pas ouverte. Guillaume se sent très gêné au milieu de tous ces gens qu'il ne connaît pas. Et en plus, ils sont grands, tellement grands qu'ils ressemblent à des profs. Ça l'intimide. Ça rit, ça crie, ça fume, ça s'embrasse. Lui a l'air idiot au milieu de tout ça. Il se sent fragile et petit. Quelques jeunes de son âge arrivent. Mais ils sont entre eux. Ils ont l'air de bien se connaître. Guillaume a l'impression d'être le seul à entrer, à être un nouveau. Enfin, la porte s'ouvre. Tous s'engouffrent dans la porte et se trouvent dans une espèce de cour entourée de bâtiments. Guillaume se dit qu'il est bien grand, son collège. Ça n'a rien à voir à son école. Se met dans un coin contre le mur. L'on va, on vient, l'on crie, l'on rit, l'on parle. Sans tous à l'aise. Et ont l'air de bien connaître l'école. Bien sûr, l'école Saint-Bruno prend les élèves de la maternelle jusqu'au bac. Alors ils ont le temps de s'habituer à l'école et de faire des amis. Pour Guillaume, c'est pas la même chose. Lui vient d'ailleurs, un autre pays et d'une autre école. Enfin, c'est son début, quoi. La sonnerie retentit. Tous se dirigent vers les bâtiments. Mais Guillaume ne sait pas comment faire ou aller. Alors il attend. Un homme se met au milieu de la cour, des grands minces blonds habillés d'un costume gris, à une feuille et dit « Tous les élèves de 6e, venez près de moi. » Guillaume est timidement va vers des garçons, un groupe de garçons et de filles qui s'approchent de l'homme. Ils sont un peu gênés. L'homme donne des noms. Guillaume lève le doigt à son nom. L'homme, après avoir fait l'appel, dit « Suivez-moi !» Et on le suit. Guillaume se dit que c'est plus simple qu'il ne le pensait. Ils entrent dans un bâtiment. Un grand bâtiment avec des escaliers de pierre très larges. Au premier étage, il y a un énorme couloir avec d'un côté des fenêtres et de l'autre des portes de classe. L'homme ouvre une porte. Entrez, ils entrent. C'est une classe grande, claire. Les fenêtres donnent sur la cour. On leur dit « Asseyez-vous ». Tous s'assoient. Guillaume ne sait où s'asseoir. Il prend une place libre sur le devant, à droite. À côté, un garçon, plus grand que lui, brun, visage rieur, costume, marron clair. Le surveillant monte sur l'estrade et dit « Je vais vous donner votre emploi du temps. Notez-le bien, c'est pour la semaine. » Prenez vite votre cahier de test. C'est ce que fait Guillaume. C'est ce que fait Guillaume. Et la matinée se passe à faire l'emploi du temps de la semaine. Puis, on parle de règlement de l'école. Guillaume note tout, il n'ose pas regarder ses camarades, se sent gêné. Ça le gêne beaucoup qu'il ait près de lui quelqu'un, ce grand, il en a peur. Il a une grosse voix et rit bruyamment. Et puis, c'est l'heure du déjeuner. Guillaume habite loin, alors il est obligé d'aller au resto du collège avec les élèves qui y vont. La pièce est très grande, ça fait self-restaurant. Guillaume ne connaît pas ça, il a l'habitude qu'on lui serve et qu'il aille dans des restaurants bien. Là, il faut qu'ils prennent un plateau et mettent dessus, en faisant la queue, des ustensiles, le couvert et des plats tout préparés. Il ne sait pas quoi prendre, alors il prend au hasard. Une fois que son plateau est plein de ce qu'il doit manger, il faut qu'il trouve une table. Il faut qu'il fasse attention aussi en tenant son plateau pour ne pas renverser ni se salir. Là, c'est pas facile, au milieu de tout ça. Toutes les tables sont prises. Enfin, il en voit une. Dans un coin là-bas. Fais bien attention pour faire tomber son plateau se faufile au milieu de ces gens qui rient, qui crient, qui font les fous. Enfin, il est arrivé.
Oui.
Pouf, mets le plateau sur ta table et s'assoit. Pouf, oui, mais ce n'est pas facile.
Oui, j'arrive.
La plupart des plats sont sous cellophane. Il faut l'a enlevé sans se décolasser. Ce n'est pas facile.
Vous avez terminé ?
La viande est mal cuite, filasseuse. Les pâtes collent. La salade est dure. Le yaourt, pas de goût. La tarte est rassis. C'est la première fois que Guillaume mange dans un resto niveau service d'école. Il se dit qu'il n'y a que le pain qui est bon. Malheureusement, il n'a droit qu'à un morceau. L'eau sent la javel. Le repas de Marie, c'est tout de même autre chose. Ah, ces bonnes tartes, ces flancs et tout. Décidément, le poulet bleu et vert est bien loin. Il a la bouche un goût désagréable. Il a fini.
Oui.
Il attend que les autres sortent.
Je veux bien une chocolat chantilly, s'il te plaît.
Et un petit jambon,
avec. Oui, ils sortent, ils semblent contents de leur repas. Ça rit, ça parle, ça téléphone, à tout va. Ça écoute les MP3. Alors, Guillaume les suit pour sortir.
Vous avez terminé?
Oui, oui.
Vous désirez un café?
Non.
L'addition?
Guillaume est le seul à ne rien avoir comme appareil. Il a l'air de morveux. L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le garçon aux yeux verts. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.